R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.
Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Pour moi, c'est très important, effectivement, d'encourager l'interdisciplinarité sur toutes ces thématiques. Et je suis effectivement juriste en droit international, spécialisée sur les droits de l'homme et le droit humanitaire. Mais j'œuvre depuis 7 ans à un plaidoyer public, politique, pour reconnaître au final des droits aux éléments de la nature et reconnaître le crime d'écocide, le fait de détruire notre maison commune. C'est un plaidoyer que je fais bénévolement qui va dans la continuité d'une thèse que j'avais entreprise en anthropologie juridique. Après avoir travaillé avec une population Innu de la forêt boréale du Québec, qui était en prise avec un projet industriel de grand barrage sur la dernière rivière sauvage, la dernière grande rivière sauvage, qui était la rivière de leur migration. Et puis ensuite, pour avoir accompagné le peuple Kayapo dans sa lutte contre le barrage de Belo Monte, en Amazonie, au Brésil. Et ces rencontres, parce que je travaille beaucoup sur les droits des peuples autochtones, m'ont vraiment permis de faire le lien entre les droits de l'homme et les droits de la nature. Donc je ne suis pas une juriste de l'environnement. C'est peut-être d'ailleurs pour cela que ça m'a permis de sortir, je dirais, de certains cadres de référence. Je voudrais aussi m'excuser auprès d'Elisabeth et auprès de vous tous, parce que j'ai accepté de venir au colloque, mais j'ai une conférence à 13h à la bibliothèque Adair pour présenter mon dernier livre, Homo Natura. Et donc je vais être obligée de partir voilà, au dernier moment, vers 12h30, je pense. Je vais essayer de rester le plus longtemps possible, mais j'enchaîne toute la journée effectivement des interventions et je ne vis pas sur Paris, donc voilà, je tente de maximiser mon bilan carbone. Donc, en règle générale, je fais mes interventions de façon un peu spontanée, mais pour les traducteurs, effectivement, j'ai préparé un texte que je vais donc vous lire, même si c'est un peu long de parler pendant une demi-heure. Toutes les erreurs de l'homme viennent de ce qu'il s'imagine marcher sur une chose inerte, alors que ses pas s'impriment dans de la chair pleine. Jean Giono, la trilogie de Pan, Colline, mon maître à penser quand j'étais enfant. L'humanité ne pourra survivre isolée du reste du vivant, comme hors sol. Nous dépendons de toutes les autres formes de vie, végétales et animales. Nous dépendons aussi des fonctions vitales de la Terre. Nous dépendons de son eau, et plus particulièrement du petit 1% d'eau douce disponible. Nous dépendons de sa mince couche d'atmosphère, qui s'élève à 800 km au-dessus de nos têtes. Nous dépendons de sa fine peau de 30 cm d'épaisseur, que l'on nomme le sol, et qui nous porte. Nous devrions nous assurer que chaque espèce et système vivant puisse être en pleine capacité de jouer son rôle au sein de la communauté terrestre. La pérennité de l'espèce humaine est inextricablement liée à celle de la vie sur Terre. Elle ne peut continuer à bafouer les lois qui régissent l'équilibre homéostatique de l'écosystème global. Or, nous analysons la nature comme un phénomène extérieur à nous. Nous oublions que nous sommes la nature. James Lovelock, dans son hypothèse Gaïa, propose de voir la Terre comme un organisme vivant. Il pose d'une part l'idée que plus la complexité et la diversité augmentent dans un milieu, plus les systèmes naturels gagnent en stabilité, et d'autre part que la Terre elle-même est un écosystème qui recherchera toujours à maintenir son propre équilibre. Cette vision s'approche de la vision holiste des peuples ancestraux, pour qui la Terre est vivante, pour qui elle est un tout, plus grand que la somme de ses parties, et elle doit être respectée pour cela. En suivant cette logique, nous pourrions reconsidérer la protection de la nature, ou plus exactement de la vie, selon une approche écosystémique, en donnant des droits intrinsèques aux grands écosystèmes vitaux et leurs sous-systèmes écologiques. Si l'humanité ne comprend pas qu'elle est interdépendante des différents écosystèmes terrestres et des autres espèces, si elle ne repense pas son droit pour les protéger, de fait, elle ne sera plus en capacité demain de garantir les droits fondamentaux des générations à venir. Alors comment faire ? Pour commencer, il me semble qu'il nous faudrait au moins imposer des limites à nos activités quand elles menacent la sûreté et l'habitabilité de la Terre. En 2009, une équipe internationale de chercheurs du Stockholm Resilience Center a identifié 9 limites planétaires à ne pas dépasser si l'humanité souhaite pouvoir se développer dans un écosystème sûr, c'est-à-dire évitant les modifications brutales, non linéaires, potentiellement catastrophiques et difficilement prévisibles de l'environnement. Il s'agit de 9 processus et systèmes qui régulent la stabilité et la résilience du système terrestre, les interactions de la Terre, de l'océan, de l'atmosphère et des formes de vie qui, ensemble, fournissent les conditions d'existence dont dépendent nos sociétés. Ces limites sont aujourd'hui reconnues comme des outils de développement durable par les Nations Unies, par l'Union européenne, mais elles ne sont pas encore reconnues comme des normes juridiques qui s'imposent à l'humanité et en particulier à son activité industrielle. La Terre est effectivement perçue comme un simple réservoir de matières premières au service de l'homme. Et c'est cette vision anthropocentrique du monde, me semble-t-il, qui nuit gravement à notre source de vie, à la santé de la planète. 4 de ces 9 limites planétaires ont déjà été franchies, concernant le climat, l'intégrité de la biosphère, le changement d'usage des sols, et la modification des cycles biogéochimiques. Pour vous expliquer en quelques mots, il s'agit par exemple de la concentration de CO2 dans l'atmosphère qui ne doit pas être de plus de 350 particules par million de CO2 si l'on veut rester dans un climat qui est proche de celui que nous connaissions avant 1850. Il s'agit aussi donc de ne pas éroder la biodiversité. À l'heure actuelle, nous avons un taux de disparition des espèces qui est multiplié par 100, voire 1000, selon les espèces, par rapport au cycle, je dirais, naturel. Le changement d'usage des sols, il s'agit de ne pas convertir en terres arables plus de 15% des terres immergées libres de glace, et donc d'éviter la déforestation. Or, aujourd'hui, nous avons perdu 80% de la forêt originelle du monde. Et la modification des cycles biogéochimiques est en lien avec les quantités d'azote et de phosphore qu'il y a dans les sols, que nous perturbons en les ajoutant nous-mêmes, sans en connaître effectivement les seuils acceptables pour que la vie puisse perdurer dans les sols. La dernière fois que la Terre a connu une teneur en CO2 comparable, c'était il y a 3 à 5 millions d'années. La température était de 2 à 3 degrés plus élevée seulement, et nous nous acheminons, je vous le rappelle, vers plutôt plus 4, plus 5, si nous continuons à exploiter les énergies fossiles. Et le niveau de la mer était supérieur de 10 à 20 mètres par rapport au niveau actuel. À l'heure actuelle, vous avez 16 mégapoles qui sont menacés d'être sous les eaux, en tout cas les pieds dans l'eau, 10 000 îles qui sont menacées de disparaître et des centaines de millions de personnes qui sont menacées de devoir quitter leur territoire, leur domicile, leur foyer. Depuis les années 70, les superficies touchées par la sécheresse ont doublé. Ce sont bien sûr les femmes, les enfants, les personnes âgées qui payent le plus lourd tribut. On estime, selon la Cornell University, que si nous restons sur cette trajectoire, nous risquons d'avoir 1 à 2 milliards de personnes qui devront quitter leur foyer d'ici 2100, sur cette trajectoire actuelle. À ce jour, 168 pays sur 197 sont touchés par la désertification. Seuls 3% des animaux sont encore sauvages. Depuis 1970, 60% d'entre eux ont disparu. 80% des insectes, de la biomasse des insectes, a disparu d'Europe en 25 ans. Ils pourraient disparaître totalement de la planète d'ici un siècle. Vous imaginez bien que sans insectes, il n'y a plus de pollinisation. S'il n'y a plus de pollinisation, il n'y a plus d'alimentation. Les rivières sauvages ont vu les populations de poissons, d'amphibiens, de reptiles chuter de 83%. Les oiseaux, en Europe, ont disparu à plus de 30%. Même constat dans l'océan. Les dernières études nous démontrent que si nous continuons sur cette trajectoire, il n'y aura plus de poissons consommables en 2048, demain. En cause, la surpêche, la destruction des habitats naturels, la pollution et bien sûr le changement climatique. Alors la question est, la Terre a déjà connu 5 extinctions massives d'espèces, atteignant parfois 90% des êtres vivants. La vie s'est toujours relevée. La question est donc aujourd'hui de savoir si l'Homo sapiens survivrait à une 6e extinction, ou si au final, nous ne sommes plus qu'une expérience en fin de course. Nous le voyons donc, nos modes de consommation menacent aujourd'hui les conditions de la vie sur Terre. Et je pense qu'il nous faut avoir le courage de remettre en question nos choix de société, les règles qui les régissent, avec pragmatisme, en s'appuyant sur le constat scientifique. Nous sommes une espèce vivante, impliquée dans un réseau d'échanges. Nous devons apprendre à nous comporter de façon efficace, c'est-à-dire qui n'en compromette pas le fonctionnement, car nous serions bien en peine si ce système s'arrêtait par notre faute. Il est donc temps de reconsidérer la protection de la nature, ou plus exactement de la vie, selon cette approche écosystémique, en protégeant par le droit les grands écosystèmes vitaux et leurs sous-systèmes écologiques, comme les océans, les fonds marins et leur équilibre chimique, les pôles, l'atmosphère et sa chimie, l'extra-atmosphère, les dernières forêts primaires du monde, telles que la forêt amazonienne, la forêt boréale, la forêt d'Afrique centrale, la forêt d'Indonésie, celle de Patagonie, celle de Tasmanie, les rivières, les fleuves et les espèces migratrices qui parcourent tous ces espaces, la biodiversité dans chacun de ces écosystèmes, ainsi que les patrimoines génétiques de chacune des espèces animales ou végétales connues et à découvrir. Il est aussi impératif de protéger les cycles biogéochimiques qui édifient le système d'échange de matière et d'énergie sur lequel tout repose, car ils permettent la vie. Les cycles du carbone et de l'oxygène liés entre eux sont illustrants. Ils permettent la respiration et la photosynthèse en interagissant avec l'atmosphère, les couches superficielles du sol et de l'océan et la biomasse. Mais cet équilibre est très précaire et doit être maintenu. Certains écosystèmes, comme les tourbières ou les océans, ont la capacité de stocker tout surplus ponctuel de CO2 dans l'atmosphère. L'océan a pompé 40% du CO2 en excès depuis 60 ans. Et aujourd'hui, il est en danger, car ce CO2 l'acidifie. Sa fonction régulatrice du climat est perturbée. Le phytoplancton qu'il habite, qui est responsable de la production de la moitié de l'oxygène terrestre, est en danger. Sa structure en calcite se dissout sous l'effet de l'acide carbonique, menaçant ainsi son existence et du même coup toute la vie marine qui en dépend. Il me semble donc que ces espaces, ces communs naturels, ces processus et cycles vitaux de l'écosystème Terre ne devraient pas pouvoir faire l'objet d'une appropriation ou d'une exploitation individuelle ou étatique. Pourtant, les forêts, les côtes, les rivières, les animaux qui sont sur un territoire national sont aujourd'hui considérés dans le droit actuel occidental sous la garde et à l'usage exclusif de ce territoire. Certains sous-systèmes sont encore considérés comme res nullius, c'est-à-dire des choses sans maître et sans droit, sans propriétaire mais néanmoins appropriables par tous, comme certains patrimoines génétiques, comme les ressources minières d'un territoire national, ou même l'eau ou l'air, car ils peuvent être dissociés de leurs sources, des nappes phréatiques ou de l'atmosphère, pour un usage individuel. C'est ce que se permettent les multinationales en brevetant le vivant ou en vendant des choses aussi essentielles que l'eau dans des bouteilles en plastique. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui remplissent des cannes en métal d'air breton pour les vendre en Chine, en expliquant que c'est de l'air pur et qui font de l'argent là-dessus. Et ça n'a l'air de choquer personne. Alors en fait, le plaidoyer que je mène est un vieux plaidoyer. Dès 1972, l'année du premier sommet de la Terre, des juristes, inquiets déjà de la dégradation des écosystèmes, se demandent s'il ne serait pas temps de réformer le droit, ce droit anthropocentré, qui se soucie d'abord de l'humain, mais qui aussi, depuis les années 70, est un droit qui se construit en parallèle par les multinationales et qui érige finalement le commerce international comme la norme suprême au-dessus des droits humains et bien évidemment au-dessus des droits de la nature. Ces juristes donc demandent dès 72 à réformer le droit pour qu'il soit le reflet d'une vision plus écosystémique du monde. C'est le cas par exemple de Christopher Stone, soucieux de la préservation d'une forêt de séquoia menacé par un projet de Walt Disney, et qui pousse son raisonnement jusqu'à se demander donc si les arbres ne pourraient pas plaider en justice pour défendre leur cause. Je vous informe que cet article a été traduit en français en 2018. Est-ce que les arbres peuvent plaider? Que vous trouverez, si je ne me trompe, dans la collection du Passager clandestin préfacée par Catherine Larère. Il propose même d'accorder des droits à l'environnement dans son ensemble, en nommant un tuteur de l'objet naturel, qui ferait aussi office de tuteur pour les générations futures. En fait, la nature, les éléments de la nature ne sont pas aujourd'hui des sujets de droit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reconnus comme des entités juridiques dans notre droit, mais les générations futures non plus. Le droit est construit pour l'humanité présente là, en ce moment. C'est pour ça, par exemple, que le Vietnam avait appelé la guerre du Vietnam l'usage de l'agent orange, qui crée encore aujourd'hui des malformations chez les enfants, la guerre des non-nés. Et donc toujours depuis les années 70, il y a aussi une demande de reconnaissance des droits des générations futures, ce qui nous permettrait finalement de légiférer et de penser sur le long terme, ce qui semble nous faire fortement défaut en ce moment. À sa suite, une première proposition en droit international émerge durant la Conférence mondiale des peuples sur le changement climatique et les droits de la terre-mère qui s'est tenue à Cochabamba en Bolivie en 2010. Son projet de déclaration universelle des droits de la terre ou des droits de la terre-mère ou des droits de la nature selon les textes et les traductions établit des principes éthiques fondamentaux visant à construire une société globale juste, durable et pacifique au XXIe siècle. Elle affirme que la Terre est vivante, elle est notre maison commune et nous devons la respecter pour le bien de tous et des générations futures. Et elle affirme aussi que pour garantir les droits de l'homme, il est nécessaire de reconnaître et de défendre les droits de la Terre nourricière et de tous les êtres qui la composent. En 2012, lors de sa réunion quadriennale, l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'IUCN, adopte une résolution recommandant l'intégration des droits de la nature à tous les niveaux et dans tous les domaines d'intervention, créant ainsi une stratégie de diffusion, de communication et de défense des droits de la nature. Elle appuie aussi le développement et la promotion d'une déclaration universelle des droits de la nature comme un premier pas vers la réconciliation entre les êtres humains et la Terre, comme base de nos vies, ainsi que les fondements d'un nouveau pacte civilisateur. Au même moment, la Bolivie engage des négociations intergouvernementales au sein des Nations Unies et obtient l'adoption par l'Assemblée générale de résolutions chaque année depuis 2009, invitant les États membres, les organisations compétentes, internationales et régionales, à promouvoir une vie en harmonie avec la nature et à transmettre au secrétaire général leurs vues, expériences et propositions sur cette question. Dès 2011, s'ouvre alors un dialogue interactif, auquel je vous invite à participer, sur la notion d'harmonie avec la nature, qui est lancée via une plateforme en ligne, composée aujourd'hui de plus de 120 praticiens, universitaires et chercheurs, en physique, biologie, écologie, économie, sociologie, droit, éthique, spiritualité, anthropologie, philosophie, médecine, linguistique, appartenant à 33 nationalités, qui développent ensemble ce qu'on appelle une jurisprudence de la Terre. Dans la note d'août 2016 du secrétaire général des Nations Unies, résumant ses délibérations et recommandations issues du réseau Harmony with Nature, il est expliqué que la planète ne devrait plus être considérée comme un objet inanimé exploitable, mais comme notre foyer commun, lieu vivant dont la santé est soumise à de multiples dangers. Et ce processus nécessite de repenser entièrement notre interaction avec la nature et d'intégrer la jurisprudence de la Terre dans la législation, l'éthique, la politique et les pratiques, en entretenant une attitude de respect et de déférence profond envers la Terre et ses cycles naturels. L'idée d'une jurisprudence de la Terre, en fait, trouve son origine dans le mouvement Earth Law, né dans les années 90, dans le sillage de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et de la Charte mondiale de la nature. Le mouvement s'est inspiré de la pensée du philosophe Arnes, qui est décédé en 2009, et qui est considéré comme le fondateur de l'écologie profonde, Deep Ecology, et de l'écosophie, et qui propose de regarder la crise écologique comme le symptôme de la perte du lien entre l'homme et la nature, sans quoi les réponses que nous pourrions y apporter ne seraient que superficielles. Le mouvement s'est ensuite enrichi d'une vision juridique grâce à Thomas Berry, qui lui aussi est décédé en 2009, qui est un théologien écologiste, qui a proposé de repenser un droit et une gouvernance centrée sur la Terre en cultivant une spiritualité écologique. Selon lui, chaque composante de la communauté de la Terre devrait disposer de trois droits, le droit à l'existence, le droit à l'habitat et le droit à remplir son rôle dans les processus sans cesse renouvelés de la communauté de la Terre. Thomas Berry était chrétien, mais il a longuement étudié les religions asiatiques, hindouisme, bouddhisme, confucianisme, taoïsme, zen, et aussi les cosmologies autochtones qui accordent respect et caractère sacré aux vivants. Il est vrai que cette approche juridique a d'abord convaincu des pays à forte composante autochtone, dont les populations cultivent encore une relation intime avec la nature et où l'identité se définit par l'appartenance à un territoire et non l'inverse. Pour eux, un territoire comprend les plantes, les animaux, les esprits des anciens, toute forme de vie sur Terre, y compris les humains, atteint les profondeurs de la Terre, dont le sous-sol, et plus loin encore, les roches et les minéraux, ainsi que les hauteurs du ciel jusqu'aux constellations célestes. Pour eux, leur rôle et leur signification sont irremplaçables. Ces éléments sont des centres de connaissances et d'apprentissage intergénérationnel, et au-delà des sources de droit. Ces peuples voient alors parfois un intérêt à dresser un pont entre leur représentation du monde, leur droit coutumier, leur droit oral, et nos fictions juridiques et politiques, pour mieux se prémunir des ravages de l'activité industrielle. L'Équateur a ainsi, dès 2008, reconnu les droits de la nature dans sa constitution, et en 10 ans, nous les avons fêtés à Quito en septembre dernier, un colloque de la Global Alliance for the Rights of Nature, dont je fais partie. L'Équateur nous a montré le chemin, surtout quant à l'application de ces droits. La nature a droit au respect intégral de son existence et au maintien de ses cycles vitaux et de tous les éléments qui forment un écosystème. Le principe de précaution est constitutionnalisé de façon à prévenir toute extinction d'espèces, toute destruction d'écosystèmes ou toute altération permanente des cycles naturels. La nature peut être représentée et défendue en justice par tout individu, communauté, peuple ou nation, et a un droit imprescriptible à la restauration. 25 procès depuis 10 ans ont été menés au nom des intérêts de la nature et 21 ont été gagnés. À sa suite, mais Diego vous en parlera plus en détail, en 2010, la Bolivie a promulgué une loi adossée à sa constitution intitulée « Loi des droits de la terre-mer ». Et depuis, cela fait boule de neige et devient exponentiel et dans des États, dans des pays qui ne sont pas forcément des pays où vivent encore des sociétés autochtones affirmées. En 2017, par exemple, la ville de Mexico, anciennement dénommée District fédéral de Mexico, a reconnu à son tour les droits de la nature dans sa nouvelle constitution. Et au Brésil, la municipalité de Bonito a procédé à un amendement à sa loi organique, suivi ensuite par la municipalité de Poadélio. Ça, c'était en 2018. Il faut noter aussi donc, que la reconnaissance des droits de la nature n'est pas du seul fait de l'Amérique latine, puisque plus d'une trentaine de villes aujourd'hui aux États-Unis, et ce dès 2006, en commençant par la Pennsylvanie, ont voté des chartes reconnaissant les droits de la nature. Vous avez peut-être entendu dernièrement le cas du lac Erie, où la municipalité, les citoyens de Toledo ont voté par référendum pour que le lac devienne une personnalité juridique et puisse défendre son droit à ne plus être pollué en justice face à des industriels. C'était il y a un mois et demi. Ailleurs, face à l'urgence, des parlements et des juges statuent de façon plus ciblée sur des écosystèmes emblématiques sur leur territoire. En juillet 2014, par exemple, une loi est adoptée en Nouvelle-Zélande reconnaissant un parc, le Te Ureoa, territoire ancestral de la tribu maori Tuweo, comme une entité juridique avec tous les droits, pouvoirs, devoirs et responsabilités d'une personne morale. Ce parc aujourd'hui n'appartient plus à personne, ni à la couronne, ni aux Maoris. Il n'appartient qu'à lui-même. Mais il peut être représenté donc par le clan qui y vit de façon ancestrale et par des représentants du Parlement néo-zélandais. En 2017 ensuite, le Parlement néo-zélandais signe une entente avec d'autres tribus Maoris et leurs clans qui reconnaissent le fleuve Whanganui comme une entité vivante et une personne morale, puis le mont Taranaki de la même façon. L'accord reconnaît par exemple la rivière Whanganui comme un tout indivisible, de sa source à la mer, comprenant des éléments physiques et métaphysiques, donnant vie et guérison à son environnement et à ses communautés. La même année, dans l'état d'Uttarakhand, au nord de l'Inde, face à l'incompétence des politiques pour régler la pollution du Gange, la Haute Cour de justice a elle aussi décidé de reconnaître le Gange comme une entité vivante, de même que son affluent, la Yamuna. Elle leur a donné une personnalité juridique, mais elle a commis, à mon sens, une erreur en reconnaissant le Gange comme une personne possédant des droits humains, mais aussi des devoirs. Thomas Berry expliquait que les poissons ont des droits de poissons, les arbres ont des droits d'arbres, les humains ont des droits d'humains, en fonction du rôle qu'ils ont à jouer et donc de ce qu'il y a à défendre dans leur rôle et dans leur valeur intrinsèque. Ça a permis effectivement à un des membres du panel de personnalités qui avait été désigné pour agir en tant que parent du Gange par les juges, de saisir la Cour suprême indienne au motif qu'il craignait d'être nommé comme responsable en cas de noyade dans le Gange ou en cas d'inondation, se voyant de fait garant des droits mais aussi des devoirs, des supposés devoirs du fleuve de ne porter préjudice à quiconque. En voulant bien faire, il me semble que les juges ont donc oublié certains principes dans l'échelle des normes. Quand on souhaite reconnaître les droits de la nature, il s'agit de reconnaître aux systèmes et espèces vivantes des droits intangibles, des droits inaliénables, comme les le droit à la vie, le droit à la dignité, le droit à la personnalité juridique. Il ne s'agit pas de transformer des éléments de la nature en citoyens soumis à un régime discrétionnaire de droits et de devoirs. Il ne s'agit pas non plus d'octroyer les mêmes droits humains à chaque animal et à chaque arbre. La jurisprudence de la Terre propose en fait de placer les droits de la nature tout en haut de l'échelle des normes, en tant que droit indérogeable, et donc idéalement, dans une constitution. La Haute Cour de l'Uttarakhand s'est montrée plus prudente dans un second jugement, où elle a aussi reconnu comme sujet de droit tous les écosystèmes himalayens sur son territoire. Les glaciers, Gangotri et Yamunotri, menacés par le changement climatique, les rivières, les ruisseaux, les lacs, les sources, les cascades. Au-delà, l'air, les prairies, les vallées, les jungles, les forêts. La Cour évoque leur droit intrinsèque à exister, se maintenir et régénérer leurs propres écosystèmes vitaux et à ne pas être pollués. En 2018, ensuite, elle a reconnu des droits au règne animal, poissons et ovins et oiseaux, si vous voulez, compris. Ces décisions ont eu un effet boule de neige au niveau national et régional. Le 4 mai 2017, dans l'État du Madhya Pradesh, une session spéciale d'une journée de l'Assemblée a adopté une résolution déclarant la rivière Narmada comme une entité vivante, affirmant que la rivière est la ligne de vie de l'État. Et puis, tout dernièrement, le 30 janvier 2019, au Bangladesh, pays voisin, la Haute Cour a accordé à la rivière Tourag le statut de personne morale pour la préserver de l'empiètement, et a déclaré que ce statut serait applicable à toutes les rivières du pays. Mais là où les juges semblent les plus actifs, est sans doute en Colombie. En tout cas, les plus innovants, les plus courageux. En 2016, la Cour constitutionnelle en Colombie a reconnu des droits au fleuve Atrato, qui était endommagé par l'extraction illégale d'or, qui détruisait forêts et écosystèmes fluviaux, polluait le fleuve, rendait malades les communautés qui vivaient sur ses rives. En 2017, la Cour suprême de justice colombienne a établi que les animaux sont reconnus sujets ayant des droits et a accordé des droits à l'ours andin, également appelé l'ours à lunettes. Puis, le tribunal administratif de Boyaca a déclaré le páramo de Pisba, au plateau de Pisba, sujet de droit. En 2018, le premier tribunal pénal du circuit de Carthagène a ordonné à l'État de Colombie de protéger et de préserver la vie des abeilles en tant qu'agent pollinisateur. Et enfin, en mai 2018, la Cour suprême colombienne a reconnu l'obligation de l'État de protéger les citoyens, mais aussi le vivant de la menace climatique. Les juges, saisis par 25 jeunes, dénonçant la déforestation galopante de l'Amazonie colombienne, elle a été détruite de plus de 40% en l'espace d'un ou deux ans ces dernières années, ont reconnu que le pays courait un danger imminent et sérieux, la déforestation contribuant à l'effet de serre, transformant les écosystèmes, altérant la ressource en eau. Ils ont alors décidé de reconnaître, d'une part, le droit à la vie et à un environnement sain aux 25 jeunes plaignants colombiens en tant que génération future. Et d'autre part, ils ont reconnu la personnalité juridique de l'Amazonie colombienne. Elle est devenue titulaire des droits à la protection, à la préservation, au maintien et à la restauration, et peut donc défendre en justice son droit à exister. Cette réforme du droit est donc expérimentée, tout à fait envisageable à mon sens en Europe. Mais il nous faut pour cela accepter de repenser notre rapport à la nature, particulièrement faussé par notre culture religieuse et philosophique. Nous avons été de longue date sommés de tourner le dos à notre condition première, de dominer et asservir le vivant pour nous affranchir des lois biologiques, de nous extraire de notre soi-disant état sauvage pour devenir civilisé. Mais la pensée politique occidentale et les lois qui en découlent ne sont finalement qu'un récit que nous nous racontons à nous-mêmes, une fiction sur laquelle nous nous accordons et dont les règles sont loin d'être intangibles. Pour le professeur en droit, Otto Pfersmann, un système juridique qui décrirait la réalité n'est pas un système juridique. C'est précisément sa spécificité de ne pas être une image de ce qui se produit, mais celui d'un monde idéal issu de certaines idéologies. Il semble opportun aujourd'hui de questionner nos idéologies, car les dommages que nous avons causés à l'écosystème Terre et les conséquences qui en résultent nous montre clairement que le respect de ces lois est la condition première et dernière de notre pérennité sur Terre en tant qu'espèce. Je vous remercie.